Après bientôt 3 mois de conflit, l'Iran n'a pas dit son dernier mot. Dans un conflit qui le met face à 2 ennemis beaucoup plus puissants que lui du point de vue militaire, le régime de Téhéran a encore quelques atouts bien cachés pour résister face à l'attaque américano-israélienne.
Depuis plus de 80 jours maintenant, tout se joue dans le détroit d'Ormuz. De son empire des crypto-monnaies à sa mainmise sur les câbles sous-marins, l'Iran abat ses cartes les unes après les autres avec des armes parfois insoupçonnées et pourtant très stratégiques.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Ordre du Monde. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, ce n'est pas Mathieu Jolivet, mon binôme géopolitique habituel qui m'accompagne cette semaine, mais c'est Margot Faudéré. Bonjour Margot.
Bonjour Annalisa.
Margot, vous avez peut-être reconnu sa voix, son visage, si vous avez l'habitude de suivre notre matinale BFM Business, puisque c'est un des visages de la matinale. Et alors Margot, sa spécialité, c'est de nous résumer des dossiers super techniques en quelques mots, de manière très très simple.
J'essaye en
Donc,
tout cas.
Voilà, c'est pour ça que je suis ravie que tu sois avec moi parce que tu vas plonger avec moi dans les eaux du détroit d'Ormuz.
Ravie aussi.
Parce que ce qui se passe ces dernières semaines en Iran, bah on a toujours l'impression d'assister à un combat qui est un peu David contre Goliath. Hein, et la dernière actu en date, c'est Donald Trump qui a encore menacé l'Iran de nouvelles frappes. Et il dit qu'il a arrêté une frappe qu'il avait prévue juste avant de la mettre réellement en pratique, parce que, selon lui, les pays du Golfe le lui ont demandé. Bon, les pays du Golfe qui démentent, et il y a une petite bataille à ce sujet-là. Mais on a beaucoup parlé dans nos médias internationaux de cette menace de Donald Trump. On a beaucoup moins parlé, en revanche, de la réponse de l'Iran à cette nouvelle menace. Et alors, les Iraniens ont communiqué là-dessus à travers le site CEPA News et à travers une déclaration du Corps des gardiens de la Révolution. Et les Iraniens ont donc dit qu'ils n'ont pas déployé toute la puissance de la révolution islamique. Évidemment, les mots sont hyper importants dans cette guerre qui est aussi une guerre de communication. Et s'ils n'ont pas déployé toute leur puissance, c'est qu'il leur reste encore des cartes à jouer, Margot.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la capacité de l'Iran à paralyser la navigation dans le détroit d'Ormuz, évidemment. De fait, à bloquer aussi les exportations énergétiques à la surface de l'eau. Mais en fait, sous l'eau aussi, Téhéran a un autre atout qui est beaucoup moins visible, évidemment, et pourtant tout aussi stratégique, ce sont les câbles sous-marins. Alors, on parle de câbles qui font 10 cm de diamètre, par lesquels transitent 95 à 99% du trafic Internet mondial. Donc, c'est énorme. Et donc, dans le cas qui nous intéresse en Iran, dans le détroit d'Ormuz, il y a une dizaine de câbles qui sont enfouis dans le détroit d'Ormuz, dont 2 au moins qui seraient situés dans les eaux iraniennes. Et donc, il y a quelques semaines déjà, Téhéran avait menacé de couper ces câbles. Il y a quelques jours, Téhéran a remis un nouveau coup de pression, cette fois-ci en exprimant l'intention de taxer l'utilisation de ces câbles par les géants de la tech. Et d'ailleurs, l'armée iranienne a déjà prévenu de potentielles perturbations en cas de refus de payer cette fameuse taxe.
En fait, s'ils peuvent se permettre d'utiliser cette arme-là, c'est que sans les câbles sous-marins, en fait, il n'y a tout simplement pas d'internet, et donc il y en a partout, et c'est
absolument
pour ça que
c'est hyper fragile. Stratégique.
Exactement. Et donc, ok, cette menace, pour le détroit d'Ormuz, on a vu que, effectivement, la menace est arrivée à bon port, si j'ose dire.
Exactement.
Ils ont réussi à bloquer tout le trafic mondial. Est-ce que sur les câbles, la menace est aussi crédible? Est-ce qu'ils peuvent le faire?
En tout cas, Téhéran s'inspire de ce que fait l'Égypte dans le canal de Suez. Et en fait, l'Égypte fait payer l'installation et le passage des câbles dans le canal de Suez par les géants de la tech. Alors, c'est une taxe qui rapporte des centaines de millions de dollars chaque année au Caire. Sauf qu'il y a quand même une différence majeure entre ces deux cas. C'est que d'un côté, on a le canal de Suez qui est un canal artificiel, qui est donc la propriété d'un État qui peut en faire usage et potentiellement mettre en place des taxes, alors que le détroit d'Ormuz, lui, on le rappelle, c'est un détroit qui est international et naturel, donc en théorie, il n'est la propriété de personne ou de tout le monde, hein,
oui,
au choix.
Ça crée beaucoup de problèmes légaux.
Exactement, et donc la mise en place d'un péage, dans ce cas-là, pose question. Alors, ce qu'on a bien vu quand même jusqu'ici, c'est qu'en fait, Téhéran fait un peu ce qu'il veut. Dans le détroit d'Ormuz, d'ailleurs, le régime a déjà mis en place un péage pour la navigation, avec des tarifs qui vont parfois jusqu'à 2 millions de dollars par navire. C'est en tout cas ce que rapportait le Wall Street Journal. Alors après, l'autre question qui se pose aussi, en fait, c'est est-ce que les géants de la tech pourrait vraiment payer cette taxe? Parce qu'on le rappelle, aujourd'hui, il y a des sanctions américaines qui empêche les entreprises américaines de commercer avec Téhéran. Mais bon, ça, Téhéran le sait bien aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le pays met en place des systèmes de paiement alternatifs, notamment les crypto-monnaies.
Ah, là, tu me parles parce que ça va être une partie de mon sujet d'après dont j'ai envie de te parler, de vous parler aujourd'hui. Est-ce que concrètement, de manière très très concrète, déjà comment ça se passe, enfin, comment on coupe ces câbles, et puis est-ce qu'ils peuvent le faire techniquement?
Alors, en tout cas, selon plusieurs chercheurs que j'ai pu lire et écouter dans les médias récemment, oui, l'Iran a les moyens techniques, tout simplement, a les outils pour aller sectionner ces câbles. Mais en fait, ce que disent aussi beaucoup de chercheurs, et ce qu'on voit bien, c'est que sans même aller jusqu'à appliquer réellement de telles coupures, le simple fait de menacer faire, exactement, ça crée déjà une incertitude qui pénalise le monde entier. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait l'Iran il y a quelques semaines, rappelle-toi, lorsque le régime avait fait planer la menace de mines enfouies dans le fond du détroit d'Ormuz, et tout ça avait suffi de facto à bloquer en fait la navigation.
On ne sait toujours pas s'il y en a d'ailleurs, mais juste
exactement.
Le fait d'avoir menacé d'en
exactement.
mettre.
Exactement, ça suffit à tout paralyser, et par-dessus tout ça fait en plus les affaires de Téhéran, puisque ce flou, eh bien ça pousse vers le haut les tarifs d'assurance dans la zone. On sait que depuis le début du conflit, par exemple, les surprimes pour faire assurer un navire sont passées de environ 0,25% du prix d'un navire à 10%, donc on est sur des multiplicateur exponentiel. Et donc ça, d'ailleurs, c'est un phénomène qui a bien été identifié par Téhéran, qui cherche justement à récupérer la main sur ce marché de l'assurance dans le détroit d'Ormuz.
Bien sûr, là encore, c'est un petit levier que l'Iran utilise, évidemment.
Absolument.
Pour faire face à cet ennemi qui est beaucoup plus puissant du point de vue militaire. Et dis-moi, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus exposés? Est-ce qu'on est tous reliés à ces câbles? Bah nous, en Europe, par exemple, est-ce qu'on est exposés?
Oui, alors c'est vrai que les câbles qui passent par la région d'Ormuz permettent de relier l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Mais il faut quand même dire, et ça c'est très important, qu'il y a moins de câbles dans le détroit d'Ormuz que de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, en fait, en mer Rouge, là, dans cette zone-là.
Oui.
Ils sont beaucoup plus nombreux, et pour le coup, il n'y a pas eu, en tout cas jusqu'ici, de menaces récentes sur les câbles en mer Rouge, contrairement à 2023, tu t'en rappelles peut-être, lorsqu'il y avait eu des attaques de Houthis en mer Rouge, et là, il y avait eu des cas avérés de câbles sectionnés. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Et donc en fait, en réalité, ceux qui seraient les plus impactés par des coupures de câbles, en fait, ce seraient les Iraniens eux-mêmes. Parce que eux, pour le coup, c'est leur seul moyen de communiquer avec le reste du monde via Internet. Et d'ailleurs, ces coupures d'Internet, en fait, elles ont déjà lieu. Pour que tu te rendes compte, chaque jour, ces coupures, elles coûtent 30 à 50 millions de dollars à l'économie iranienne. On parle même de jusqu'à 100 millions de dollars de coûts indirects. Donc tu vois qu'en fait, c'est l'économie iranienne qui est la plus menacée.
Ça leur coûte très cher. C'est fou de penser qu'il y a seulement 3 ans, la mer Rouge était le pire endroit du monde pour la navigation. Et aujourd'hui, on se dit, finalement, la mer Rouge, ça va, il y a beaucoup moins de menaces.
Exactement.
Par rapport au détroit d'Ormuz, alors que c'est juste à côté. En fait, je me rends compte que ces câbles sous-marins, on en parle depuis longtemps, on dit depuis très longtemps qu'ils sont stratégiques. Là, on commence à toucher vraiment le moment où ça devient une vraie menace
en
fait, pour beaucoup de pays.
Absolument, tu as raison. C'est vrai que là, ça arrive vraiment sur le devant de la scène. Même si, en réalité, il y a quand même des pays qui, depuis plusieurs mois, ont pris conscience, en fait, de l'importance de ce sujet-là. Tu te rappelles peut-être fin 2024, on avait constaté des câbles endommagés en mer Baltique.
Ah oui.
Et en fait, ça avait fait arriver le sujet un peu plus sur le devant de la scène. Et par exemple, l'Irlande, du coup, depuis cet événement, a vraiment mis ce sujet au centre de ses préoccupations et justement est en train de renforcer son arsenal de protection de ses propres câbles sous-marins. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je vous propose de revenir à la région qui nous intéresse, à savoir l'Iran et plus spécifiquement le détroit d'Ormuz. Et cette fois-ci, repassons à la surface de l'eau.
Oui, on remonte.
On remonte, donc, à la surface où transitent les navires, et en fait, pour être plus précise, où ils ne transitent plus, puisque de facto, le trafic est complètement paralysé dans la zone depuis plusieurs semaines.
Oui, et ça, c'est le principal atout de l'Iran, dont on parle depuis désormais plus de 2 mois. Donc, l'Iran qui a paralysé le détroit d'Ormuz, et qui envisage désormais de faire payer un péage aux bateaux qui veulent traverser le détroit. Ça avait été évoqué assez tôt dans le conflit. Donc ce qu'on lit dans les médias, c'est que les navires qui passent à vide pourraient passer gratuitement. En revanche, il faudrait payer pour passer avec du pétrole, évidemment. C'est la matière première qui nous intéresse ici. Et avec une taxe de 1 dollar par baril transporté, ça ne semble pas beaucoup. Et en fait, si, c'est énorme.
Avec les volumes transportés, ça va vite très
cher. Exactement, ça coûte vite des millions. Et elle serait payée en crypto. Et voilà l'autre atout de Téhéran, ce sont les cryptos. En fait, les cryptos présentent plusieurs avantages. Tout d'abord, elles permettent d'échapper aux sanctions américaines,
absolument,
aux sanctions occidentales. Et en fait, là, on peut se dire que les Iraniens, ils ont un peu appris de ce qui est arrivé à la Russie. Quand la Russie a été exclue du système SWIFT, elle s'est retrouvée avec peu de solutions financières. Et là, les Iraniens, bah, ça fait des années, du coup, qu'ils essayent de trouver des solutions déjà pour contourner. C'est ce qu'on dit quand on dit que les Iraniens préparent ce conflit depuis des décennies.
Bah, exactement.
Ils se sont préparés du point de vue financier. Et ensuite, autre grand avantage des cryptos, c'est que le paiement est quasi instantané. Donc, tu le reçois directement sur les portefeuilles crypto. Et donc, ça permet de... Bah, tu bloques physiquement le passage du bateau tant que le règlement n'est pas reçu. Alors que sur les virements traditionnels, évidemment, ça prend un peu plus de place. Et donc, les Iraniens, ils ont eu une nouvelle idée qui est sortie cette semaine. Pourquoi ne pas utiliser les cryptos aussi pour l'assurance maritime, la fameuse assurance maritime, Hormuz Safe ou Safe Hormuz, tu le dis comme tu veux. En tout cas, voilà, les Iraniens ont créé ce site internet qui n'est pas disponible en dehors de l'Iran à l'heure où on se parle. On a quelques captures d'écran qui sont sorties entre-temps. Et donc, ils disent qu'il y a plusieurs polices d'assurance, plusieurs certificats de responsabilité financière et que donc, selon eux, c'est une assurance numérique rapide et vérifiable, réglée à la vitesse de la blockchain. Donc, tu vois, ils se donnent aussi les moyens financièrement de monétiser tout ça. Et ce qu'ils essayent de faire est très intéressant parce qu'ils monétisent le risque géopolitique qu'eux-mêmes
ont créé.
Exactement. Et en même temps, ils contournent les sanctions. Donc, à voir si ça fonctionne, à voir si c'est vraiment mis en place, parce que encore une fois, c'est aussi le jeu de la communication. Mais c'est quand même un système très très malin de la part de Téhéran.
C'est passionnant ce que tu racontes, parce que c'est vrai que moi, la première, et je pense que beaucoup d'auditeurs seront peut-être dans mon cas, on se doute pas en fait que l'Iran est un acteur à ce point important du secteur des crypto-monnaies.
Si, et en fait, si. On estime que l'écosystème crypto a généré 8 milliards de dollars en 2025.
Ah oui.
Évidemment, beaucoup de ce système crypto est quand même trusté par les gardiens de la révolution, par les autorités.
Avec une mainmise.
Exactement, ce n'est pas tout à fait libre de droit. Eux, ils ont transféré plus de 3 milliards de dollars l'année dernière. Donc, effectivement, la crypto permet aussi d'avoir pour le régime un poumon financier. Donc, tu vois, toute cette économie qui se construit avec le pétrole, les cryptos.
Absolument.
C'est quand même une économie complètement différente par rapport à celle qu'on a l'habitude de voir en Occident. Et donc, il y a toute la question à chaque fois qu'il y a beaucoup de cryptos qui sont minés, la question de l'électricité. Pourquoi ça s'est développé autant? Parce que la République islamique a accordé des subventions publiques très très importantes à l'électricité, ce qui fait que c'est très bon marché, et donc l'Iran est un des pays où ça coûte le moins cher de miner de Bitcoin. Donc on estime qu'il y a au moins 700 000 machines de minage en Iran, et en fait c'est une source de revenus pour le régime, vu que ça coûte moins cher de miner le Bitcoin, après ils arrivent à le revendre quand même au prix de marché, et donc ils se font
de la marge,
se génèrent un rendement non indifférent. Sauf que depuis que Israël frappe les structures énergétiques, forcément il y a une tension sur l'énergie. Et j'en parlais cette semaine avec Maneli Mirkan qui est venue nous voir en matinale mardi. Et elle est franco-iranienne, donc elle a beaucoup de sources sur le terrain, des proches, des connaissances sur le terrain, qui raconte que le régime de Téhéran est en train d'essayer de serrer un peu la vis sur la consommation d'électricité des particuliers. Donc en plus, comme si ça ne suffisait pas,
par le double peine.
Exactement. Parce que la priorité doit rester à ce secteur des cryptos qui est bien sûr hyper énergivore. D'énergie.
C'est intéressant, en fait, on voit bien dans ce que tu dis qu'il y a en effet le régime qui contrôlent énormément cette industrie des crypto-monnaies, et on a compris parce qu'ils y ont un intérêt. Mais je crois qu'en fait, il n'y a pas que le régime. Tous les Iraniens, au quotidien, utilisent aussi la crypto-monnaie, en fait.
Oui, c'est un peu une question de survie parce que ça les protège de l'inflation. Mmh. On sait qu'en Iran, il y a eu une inflation monstrueuse ces dernières années. C'est d'ailleurs une des causes des manifestations qu'on a vues au mois de janvier. Et donc, ça leur permet aussi de convertir les liquidités s'ils le font au bon moment, d'arriver à ne pas perdre trop d'argent. Et on a vu que c'est assez important pour les Iraniens à deux moments spécifiques. Le premier, justement, pendant les manifestations de janvier, parce que les Iraniens ont commencé à acheter de plus en plus de crypto et de bitcoin à un rythme beaucoup plus élevé qu'auparavant, parce que ça leur permettait de se faire un petit matelas de sécurité, vu qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer.
Bien sûr.
Pendant les manifestations et juste après, c'était un moment où le régime était quand même un peu en difficulté. Et au moment de la guerre, donc entre les premiers jours de la guerre le 28 février, jusqu'au 2 mars, donc c'est vraiment les trois premiers jours de guerre, plus de 10 millions de dollars de crypto actifs ont quitté les plateformes d'échange iraniennes. Donc c'est là qu'ils ont tout converti, ils ont exporté pour essayer de effectivement garder de la liquidité. Et c'est pour ça d'ailleurs que les autorités américaines essayent de cibler de plus en plus ce secteur, parce que elles se rendent bien compte que c'est un des poumons de l'Iran. Donc ça contribue à étouffer cette économie. J'ai lu sur Fox Business que les autorités américaines ont gelé 500 millions de dollars en crypto-monnaie, dont 344 millions seulement pour le mois dernier. Donc ils ont gelé 500 millions de dollars. Il y en avait 8 milliards. Tu vois, c'est quand même une bonne
Il y a vraiment une mainmise du régime sur toute cette industrie-là.
Exactement. C'est un des robinets du régime. Donc effectivement, Washington est persuadé que s'ils arrivent à couper ce robinet, finalement, l'Iran va étouffer beaucoup plus vite.
Écoute, merci beaucoup d'avoir parlé du secteur des cryptos en Iran, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, dont moi, qui n'étaient pas conscients de cet aspect-là de la guerre, et on parlait des armes insoupçonnées du régime. Je pense que c'en est vraiment une.
Oui, c'est vraiment une arme qu'ils utilisent beaucoup. Toi, tu vas me parler pour ton radar de la semaine, ce que tu surveilles, parce que je sais qu'une de tes obsessions, ici, t'inquiète pas, dans ce podcast, on a des obsessions tous, et une de tes obsessions, c'est l'énergie.
Oui, mais c'est vrai que l'énergie, c'est ce que je lis vraiment au quotidien. Et donc, il y a un sujet en particulier que je vais surveiller, alors pas forcément dans les prochains jours, mais même les prochaines semaines, c'est l'évolution des relations énergétiques entre Russie et Chine, parce que Poutine était ces derniers jours en Chine pour renforcer les liens avec Xi, et notamment au programme, il y avait un projet de méga gazoduc qui doit relier la Sibérie et plus spécifiquement le parc de Yamal à la Chine. Alors c'est un projet en fait qui traîne depuis des années. Il n'y a pas encore d'annonce ni d'accord à ce stade, mais la Russie et la Chine ont fait état cette semaine de progrès. Alors en fait, il se trouve que c'est un projet qui est absolument indispensable pour Moscou, qui, on le rappelle, en fait cherche un peu désespérément des nouveaux débouchés pour son énergie et notamment son gaz, puisque l'Europe va bientôt interdire totalement les importations de GNL russe. Donc la Russie est bien obligée de trouver d'autres débouchés. Donc pourquoi pas en Russie,
les Européens
en Chine.
Importent énormément de Yamal. Oui. C'est un sujet sur lequel tu avais beaucoup travaillé. Les Européens importent énormément
Exactement.
De gaz de Yamal.
En fait, ils le font tant que c'est possible. Donc début 2027, ça sera plus possible. Donc,
et sans trop le dire non plus.
Voilà. Évidemment, parce que forcément, politiquement, c'est un sujet un peu sensible. Mais donc, tu as raison, il y a cette deadline qui arrive début 2027. Et donc, Moscou essaie de trouver d'autres débouchés, pourquoi pas avec la Chine, en relançant ce gazoduc qui pourrait lui permettre de doubler ses exportations de gaz vers la Chine. Donc ce serait quand même très important. Et puis c'est vrai qu'avec le conflit Moyen-Orient, la Chine, elle aussi, cherche un petit peu à diversifier ses approvisionnements, mais elle est quand même beaucoup moins en difficulté que la Russie. Et donc c'est aussi pour ça que la Chine a clairement la main dans ses négociations sur ce sujet-là.
Effectivement, c'est la Chine qui est en position de force dans ce dossier, en général, dans sa relation avec la Russie, c'est Xi Jinping qui a la main.
Absolument. Sur beaucoup de dossiers, la Chine est en position de force. Et toi, alors, qu'est-ce que tu vas surveiller pour les prochains jours dans ton radar ?
Écoute, je surveille quand même aussi la Russie, d'une certaine manière, mais de loin. Moi, je regarderai bien ce qui se passe dans les couloirs du pouvoir à Bruxelles, puisque, tu sais, ces derniers jours, Vladimir Poutine semble de plus en plus ouvert à ouvrir un canal diplomatique avec les Européens. Alors, les Européens et les Russes ne se parle plus officiellement depuis le début de la guerre en Ukraine. Il n'y a plus de
relations diplomatiques.
Exactement, il n'y a plus de canaux diplomatiques du tout. Donc c'est quand même très étonnant que Poutine se montre assez ouvert à parler avec les Européens. Et en même temps, les Américains se rendent bien compte que de un, ils sont engagés sur le front moyen-oriental, et deux, ça bouge pas trop de leur côté avec Poutine. Donc, ils se sont dit assez d'accord pour que les Européens essayent de discuter avec les Russes aussi. Les Européens, évidemment, essayent en coulisses de s'activer pour comprendre qui on peut envoyer discuter avec Poutine ou avec, en général, le Kremlin.
Il y a des noms qui commencent à sortir un petit peu.
Oh oui, il y en a, alors, il y en a qui sont pas très étonnants, évidemment, tu les as entendus aussi. Alors, il y a Angela Merkel.
Oui, qu'on a entendu.
La chancelière, ancienne chancelière allemande, qui a l'avantage de très, très bien connaître Poutine. Elle l'a beaucoup pratiqué.
Absolument.
Elle connaît l'homme. Il y a Mario Draghi, l'ancien président du Conseil italien. Lui, son point de force, c'est vraiment d'être neutre. Tu sais, d'avoir ce côté très policé, très neutre.
Oui, tout à fait.
Qui pourrait plaire.
Fonctionner, oui.
Exactement. On parle aussi d'Alexander Stubb, qui est le président finlandais. Sauf que lui, il est encore en poste. Donc, ça pourrait marcher, pourquoi pas, la Finlande est assez proche de la Russie
géographiquement.
Sauf que, voilà, comme il est encore en poste, il aurait une marge de manœuvre politique assez réduite, ça serait un peu compliqué pour lui. Mais tu vois bien que, comme d'habitude, les Européens ont du mal à se mettre.
L'éternel problème.
Exactement. Et puis, le Kremlin veut aussi avoir un petit peu de poids dans ce choix. Par exemple, les Européens pensaient à un moment à Kaja Kallas, qui est la chef de la diplomatie européenne. Les Russes, ils ont dit absolument pas.
Oui, tout de suite.
En question. Eux, ils préféraient Gerhard Schröder, tu sais, l'ancien chancelier allemand.
Ah oui.
Qui après s'est recyclé dans des entreprises publiques russes. Donc, il est très proche des cercles de pouvoir russes. Voilà, là, c'est les Européens qui...
Plus.
Exactement. Donc, effectivement, tu vois, il y a toute cette guerre de pouvoir interne pour savoir qui on va envoyer pour parler à Poutine. Ils vont en parler la semaine prochaine parce qu'il y a une rencontre des ministres des Affaires étrangères à Chypre.
D'accord.
Donc, on va bien surveiller ça. Peut-être que... On sait que le sujet sera à l'ordre du jour. Donc
d'accord.
Peut-être qu'à ce moment-là, on en saura un peu plus
sur... Les paris sont ouverts. Chacun peut
envoyer à la cour du Kremlin.
Peut mettre une pièce sur un nom.
Exactement. Ah mais moi jamais sur Mario Draghi. Et toi, prends les paris.
J'aime bien Mario Draghi aussi. Je peux, je mets la pièce sur les mêmes personnes.
Bon, on essaye. Hein.
Voilà.
Bon, voilà, on est arrivé à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Margot de m'avoir accompagnée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Vous pouvez nous suivre. Hein, vous avez l'habitude désormais. Sur tous nos canaux, sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast. Et puis, si vous regardez la vidéo, si vous aimez bien la version vidéo sur YouTube, mais aussi sur le site de BFM. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on les regarde, on regarde vos commentaires. Et si vous avez des questions, on essaye de les traiter la semaine prochaine dans le podcast avec Mathieu Jolivet, qui sera de retour cette fois-ci, mon binôme géopolitique habituel que je vais enfin retrouver. Et d'ici là, bonne semaine. Merci beaucoup, Margot. Au revoir.
Merci.